Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonsoir, le Saint-Siège appelle à trouver une solution pacifique pour le Bélarus. La justice, l'écoute des peuples et la paix ont été au centre de l'intervention de l'observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'ONU à Genève, à l'occasion de la 45e session consacrée à la situation très difficile à Minsk. Le compte-rendu de Cyprien Viette.
Le Saint-Siège renouvelle son appel pour une solution pacifique et juste à la situation politique créée au Bélarus après les élections. C'est ce qu'a déclaré Mgr Ivan Jurkovic, l'observateur permanent du Saint-Siège auprès des Nations Unies à Genève, qui s'est exprimé lors de la 45e session du Conseil des droits de l'homme consacrée à ce pays plongé dans une grave crise politique depuis la réélection contestée du président sortant Alexandre Loukachenko le mois dernier. En particulier, pour résoudre les tensions, le diplomate pontifical a appelé à un dialogue sincère au rejet de la violence et au respect de la justice et des droits. En espérant une meilleure compréhension de la mission ecclésiale de l'Église et du rôle qu'elle joue dans la promotion de la réconciliation et de la cohésion sociale, Mgr Jurkovic a donc appelé à des manifestations pacifiques et à l'écoute de la voix du peuple tout en respectant ses droits. Lors de sa visite dans le pays le week-end dernier, Mgr Paul Richard Gallagher, le chef de la diplomatie pontificale, avait notamment insisté sur le droit au retour de Mgr Tadeusz Kondrouchevitch, l'archevêque de Minsk, qui a été empêché de rentrer au Bélarus après un déplacement en Lituanie.
Cyprien Viette. Et hier, l'opposante bélarusse Svetlana Tikhanovskaya, exilée en Lituanie, avait envoyé un message vidéo au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, exhortant la communauté internationale à la plus grande fermeté contre le régime d'Alexandre Loukachenko. L'ONU qui appelle les autorités bélarusses russe a entamé un dialogue avec l'opposition et a cessé d'avoir un recours excessif à la force à l'encontre des manifestants. Il a les jambes tremblantes, réapprend à marcher. Alexei Navalny raconte son rétablissement progressif sur Instagram. Il y a près d'un mois, il tombait dans le coma. L'opposant au Kremlin a été empoisonné. Un laboratoire allemand a retrouvé des traces de Novichok dans son sang, un agent innervant. Des traces d'un agent toxique ont par ailleurs été retrouvées sur une bouteille d'eau qu'il avait consommée. Depuis l'hôpital allemand où il est pris en charge, Navalny peut désormais s'exprimer. Même si sa convalescence pourrait être longue, il a tenu à remercier les médecins qui se sont occupés de lui. Le président américain Donald Trump évoque une nomination sans délai d'un nouveau juge à la Cour suprême quelques heures seulement après la mort de Ruth Bader Ginsburg. La campagne électorale américaine prend une nouvelle tournure et la Cour suprême en devient un enjeu majeur. Morte à 87 ans, Ruth Bader Ginsburg était une figure de la gauche très respectée aux États-Unis. Son décès ouvre la voie au président sortant et au camp républicain pour nommer un nouveau juge conservateur à la Cour suprême, même si la défunte juge avait souhaité que soit d'abord élu un président. Il y avait foule ce samedi matin dans la cathédrale de Côme, dans le nord de l'Italie, où se sont tenues les funérailles de Don Roberto Malgesini. Ce prêtre avait été tué mardi dernier par un sans-abri qui l'assistait, victime de problèmes psychologiques. Le cardinal Konrad Krajewski, l'aumônier du pape François, a assisté à la cérémonie portant un message de compassion du souverain pontife. « Je vous apporte le salut et l'étreinte fraternelle du Saint-Père. Il est avec nous, il se joint à nous dans la prière », a souligné le cardinal polonais. Plus de détails à retrouver sur notre site vaticannews.va. L'Italie où se tiendront demain et lundi des élections dans 7 régions de la péninsule, un scrutin qui pourrait avoir un impact sur le gouvernement où siège le PD, le centre-gauche, le parti démocrate qui gère en effet plusieurs régions comme la Toscane notamment, qui pourrait basculer à droite, ce qui serait une première pour la région depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La commissaire européenne aux affaires intérieures plaide pour un mécanisme de solidarité obligatoire entre tous les pays de l'Union européenne sur la question migratoire. Ylva Johansson doit présenter mercredi prochain une réforme très attendue du pacte migratoire européen et du droit d'asile. Elle a reconnu néanmoins que trouver une proposition qui puisse être acceptée par tous les États membres et le Parlement européen était une tâche bien difficile. Plusieurs leaders d'opposition vont être poursuivis notamment pour terrorisme et incitation à la violence en Éthiopie. Parmi eux figurent des représentants de l'ethnie Oromo, dont est issu le Premier ministre Abiy Ahmed. Les nationalistes Oromo considèrent que le chef du gouvernement n'a pas assez fait pour répondre à la marginalisation politique et économique dont ils estiment souffrir. La région où vit cette minorité, non loin de la capitale Addis Abeba, est régulièrement le théâtre de manifestations meurtrières. En Inde, alors que la crise économique du coronavirus continue, le gouvernement doit faire face à un autre problème, le retour de millions de travailleurs expatriés à l'étranger et qui sont au chômage à cause de la pandémie. Le problème prend des proportions dramatiques dans certains pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite, où des travailleurs indiens au chômage ont perdu leur permis de travail et se retrouvent en prison. Les précisions de notre correspondant à New Delhi, Emmanuel Derville.
C'est un appel à l'aide que les médias indiens ont relayé largement. En Arabie Saoudite, des centaines de travailleurs précaires ont perdu leur emploi et n'ont plus de permis de travail à cause de l'épidémie. Certains, réduits à la mendicité, ont été emprisonnés par les autorités saoudiennes. New Delhi a organisé un programme de rapatriement de ces expatriés, mais rien qu'en Arabie Saoudite, plus de 8 millions d'Indiens travaillent dans des entreprises locales. Difficile dans ces conditions pour la compagnie Air India de faire revenir tout le monde rapidement. Les arrestations de ressortissants indiens en Arabie Saoudite mettent en lumière un impact moins connu de la crise économique actuelle. Chaque année, la diaspora indienne envoie plus de 80 milliards de dollars dans son pays d'origine, un montant qui va chuter de 23% cette année, d'après la Banque mondiale. Ce phénomène risque d'accroître la pauvreté dans un pays qui verra en plus son PIB baisser de plus de 10% en 2020. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
Des milliers de manifestants ont défilé aujourd'hui dans les rues de Bangkok pour demander plus de démocratie et le départ du Premier ministre thaïlandais. Des protestations qui devraient durer tout le week-end et qui prennent de l'ampleur alors que des premières manifestations similaires avaient débuté cet été. Certains jeunes manifestants demandent également une réforme de la monarchie thaïlandaise, un sujet tabou au royaume, estimant qu'elle n'est plus en phase avec la société. Conséquence directe du réchauffement climatique, la fonte des glaciers s'accélère depuis plusieurs décennies. Au Groenland, sous l'effet de la chaleur, une masse de glace de 113 km² s'est détachée du plus grand glacier existant encore dans l'Arctique, a alerté cette semaine l'Institut géologique du Danemark et du Groenland. Au total, 28 000 milliards de tonnes de glace ont disparu de la surface de la Terre entre 1994 et 2017. Les conséquences de cette fonte accélérée sont nombreuses et inquiétantes, nous explique le climatologue et glaciologue Jean Jouzel. Il est l'ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.
Les submersions deviendraient beaucoup plus importantes. Par exemple, en France, avec l'élévation du niveau de la mer, eh bien, on pourrait avoir chaque année 1 million d'habitants qui pourraient être victimes de submersions temporaires. Ça, eh bien, ça a tendance à augmenter. Ça touche vraiment des centaines de millions d'habitants à terme, cette élévation du niveau de la mer, des habitants qui devraient quitter l'endroit où ils vivent. Et il faut parler de Tokyo, de Bombay, bien sûr de New York, peut-être à un moindre degré, de Miami, aussi de Lagos. Voilà, donc ce sont aussi des grandes villes qui doivent se poser des questions.
Si cette fonte des glaciers en Arctique se poursuit, c'est toute la géographie du monde qui pourrait en être modifiée, avec notamment la disparition de certaines villes englouties par les eaux.
Bien sûr, certaines villes sont très fragiles. Par exemple, disons à New York, il a été envisagé de mettre un mur, disons, sur une partie de New York fragile. Mais il y a aussi les régions de l'Arctique qui seront complètement modifiées, puisque des routes maritimes qui n'étaient pas ouvertes jusque-là seraient ouvertes pendant quelques mois de l'année, bien sûr l'été. Mais ça ouvre des perspectives en termes de transport maritime, mais aussi en termes d'exploration, que ce soit de gaz, de pétrole, mais aussi de minéraux. Et dans un environnement qui est quand même extrêmement fragile et que l'on devrait tout faire pour protéger. Il faudrait laisser l'essentiel du pétrole et du gaz qu'on a dans nos sous-sols, là où il est, si on veut maîtriser le réchauffement climatique. Donc il faut vraiment arrêter ces explorations, en particulier celles de gaz et de pétrole.
Comment ralentir, voire inverser cette tendance? Comment protéger aujourd'hui les glaciers?
On peut ralentir, mais on ne peut pas inverser cette tendance. C'est très clair que le mieux qu'on puisse faire, c'est ralentir. Et ce qu'on doit faire est très clairement inscrit dans l'accord de Paris. Par exemple, si on veut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, bien, il faut impérativement diminuer de 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et puis atteindre neutralité carbone en 2070. Pour 1,5 degré, il faudrait atteindre neutralité carbone en 2050. Et on voit bien la difficulté dans un monde qui est intoxiqué, je dirais, presque par l'utilisation des combustibles fossiles. C'est un véritable problème. On sait ce qu'il faut faire. Il faut vraiment sortir de cette civilisation liée au pétrole, au gaz, au charbon. Mais ce n'est pas si facile, mais c'est indispensable si on veut préserver un climat auquel les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter dans la deuxième partie de ce siècle. Bien sûr, dans les pays européens, mais encore plus dans d'autres pays comme l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, les régions qui sont déjà, disons, assez chaudes et qui souffrent déjà de la chaleur.
Interrogé par Hélène Détombe, le glaciologue Jean Jouzel était l'invité de Radio Vatican. C'est la fin de ce journal. Merci de nous être fidèles. N'oubliez pas toutes nos informations sur vaticannews.va. Je vous souhaite une excellente soirée.